Chapitre 3 Après la chasse. Gabriel et Cléops avaient seulement entrevu à la lueur des premières étoiles l'effroyable drame qui venait de se dérouler dans les abîmes sans fond du Gouroul. Quelque temps encore, ils entendirent une plainte lugubre et intermittente qui attestait l'agonie du cheval et du cavalier. Les rugissements avaient cessé, mais des râles stridents et prolongés annonçaient que la furie des bêtes s'exerçait contre un cadavre. Enfin, la rime du Lutzmi devint silencieuse. Les tigres avaient regagné les gorges du Ravana. Nos deux voyageurs descendirent de l'arbre et ils ne perdirent pas de temps à se communiquer leurs impressions ou à prendre parti. Les yeux fixés vers les étoiles du midi, ils s'éloignèrent avec lenteur et précaution des rives de ce fleuve de mort. À chaque frémissement de feuilles, ils s'arrêtaient, le cou tendu, l'oreille au bruit, courbés comme des chasseurs qui craignent d'effrayer le gibier. La main droite à la détente de la carabine, la gauche allongée sur le canon. Mais cette fois, c'était le gibier qui chassait le chasseur. Puis il se disait par un signe de tête « Bon, ce n'est rien, il faut poursuivre notre marche. » Et il cheminait encore à tâtons, d'un pas de funambule, la respiration supprimée, les yeux au bout des pieds, craignant toujours de réveiller un tigre endormi, de rouler dans un lit d'hyène et de troubler quelque puissant hyménée de panthère ou de serpent. Quelquefois, lorsqu'une arête vive et tortueuse de broussailles comprimés sous leurs talons, se relevaient en se roulant autour de la jambe, un frisson mortel glaçait leurs veines, car ils se croyaient piqués par le terrible cobra capel qui siffle sur les grèves de la triplicam au brûlant milieu du jour et qui la nuit s'engourdit dans la mousse des collines et se replie en trois cercles comme un bracelet oublié au désert par la belle Sfara, épouse d'Agni, le dieu du feu. Ces angoisses dévorèrent les deux voyageurs tant que les étoiles brillèrent au ciel. À l'aube, les objets se dessinèrent et reprirent leur forme naturelle. Gabriel rompit le premier le silence en disant « Oh, béni soit le jour, je suis comme Ajax, fils de Télamon, je suis poltron la nuit. »« Êtes-vous bien sûr, dit-il à Cléops, que nous avons marché dans la direction du lac de Tinnevelly ?» « Oh, moi, je ne suis sûr de rien. Nous avons marché au hasard. Il me semble qu'il y a 10 nuits que nous marchons. Je ne serais pas étonnant de me trouver en Chine au lever du soleil. » « Non, voilà bien pour la constellation de la Croix du Sud avec laquelle nous nous sommes dirigés. »« La Croix du Sud, mon cher Gabriel, le diable me caresse si j'ai remarqué une seule fois les étoiles. » À moins qu'elle n'ait roulé sous mes pieds, j'avais l'œil au tigre et au serpent. Mais tenons conseil, Cléops. Soit, tenons conseil, je vous écoute. Commencez, la séance est ouverte. Bien, attendons le lever du soleil. Dès que nous connaîtrons l'est, nous connaîtrons les autres points cardinaux. Adopté, la séance est levée. Asseyons-nous et causons. Oh, nous pouvons même dormir un peu. Je crois que nous sommes sur le sommet d'une montagne. On ne risque rien ici. Dormons, je suis brisé. Dormir, êtes-vous fou, Cléops? Ne craignez-vous pas de vous réveiller dans le ventre d'un lion? Gabriel, je suis comme vous pour les tigres. Je ne crois pas au lion, à moins qu'il ne soit en cage ou empaillé. Ce pauvre Mounoussami. Oh, nous avons assez pleuré sur lui, c'est un malheur consommé. Les maris qui ont de trop belles femmes font toujours mauvaise fin. C'est une leçon dont je profiterai. Oh, sœur Cléops, ne plaisantons pas sur cette horrible catastrophe. Gabriel, ne faites pas trop le vertueux, on dirait que nous sommes en Europe. Nous sommes dans l'Inde, enfin du moins je le suppose, car je crains furieusement au lever du soleil de rencontrer un Chinois. Or, en faisant la part de la douleur que vous cause, ainsi qu'à moi, la triste mort de Mounoussami, Vous devez trouver, après vos larmes, une secrète et honteuse consolation dans le veuvage de la belle Eva. Vous êtes jeune, vous êtes français, vous avez la grâce et l'esprit de votre nation. Vous êtes pauvre aussi en votre qualité de savant. Eh bien, avec tous ces avantages, vous devez l'emporter après le deuil sur tous vos rivaux. Voyons, parlez-moi franchement, Gabriel. Avouez que mes paroles ne sont que l'écho de votre pensée. Gabriel, vous avez déjà fait votre plan. Mais quelle fureur avez-vous de plaisanter ainsi? Moi, j'ai encore dans la tête tous les tics du Bengale qui me rongent la cervelle. Comment diable voulez-vous que je songe? Vous y songez, Gabriel. Oh, je connais le cœur humain. Cependant, je n'insiste pas. J'attends demain, à moins que nous ne soyons dans un autre pays. Parole d'honneur, mais je crois vraiment que cette montagne est un bastion de la muraille de la Chine. Clarebs, ouvrez les yeux. Je m'aperçois que vous parlez en rêvant. Levez-vous donc, voici le jour, allons debout. Vive le jour, je ferme les yeux pour ne pas le voir dans la nuit. Oh, quel admirable point de vue! Oh, quel grand et magnifique paysage! Il me semble que je suis à Richmond, au balcon de Star and Garter, première auberge du monde. Mais tout ce paysage indien ne vaut pas un déjeuner, je meurs de faim, je mangerai un lion. Eh bien, mon cher Clerps, levez-vous et doublons le pas, nous déjeunerons. Et où? Parbleu, à la maison de Bobsoumsami. Ah, ça, vous croyez donc que la veuve continuera à tenir auberge pour les passants? Nous trouverons la maison vide. La veuve ne recevra personne dans son désespoir. Notre déjeuner est très compromis. N'importe, il faut continuer notre chemin. D'abord, orientons-nous. Le soleil va se lever là, l'habitation de la belle veuve est donc dans cette direction, en face, au midi. Oui, voilà le nord, je crois, le mont des bergers, où nous avons fait une si belle chasse. Il faut descendre dans la plaine et marcher droit devant nous. Allons, nous arriverons toujours à quelque part. Le soleil n'était pas levé, mais la campagne déjà s'inondait de cette lumière qui resplendit avant l'astre à l'horizon de l'aurore. On voyait dans le lointain se glisser rapidement au carrefour des bois ou au gouffre des vallées d'horribles formes de monstres indiens, ivres de sang, qui se hâtaient de regagner leur tanière comme si la nature eût défendu de troubler par leur présence la douce sérénité du soleil levant. Les arbres gigantesques, disséminés sans nombre sur une plaine sans limite, paraissaient comme des courtisans immobiles et silencieux qui attendent le lever d'un roi. Sous quelques-uns de ces merveilleux aspects, la campagne ressemblait à une belle femme qui se pare pour recevoir son époux. Elle déroulait sa chevelure de rizière blonde, elle pendait à son cou un petit fleuve sinueux comme un collier d'argent, elle faisait saillir du milieu de deux collines charmantes de superbes tiges d'aloès épanouies comme un bouquet de fiancée. Elle se voilait d'une prairie comme d'une robe de cachemire à mille fleurs. Quand le soleil qui se lève sans ennui depuis 6000 ans, pour se donner à lui seul le spectacle de ce paysage inconnu et sublime, quand le radieux époux de cette nature se révéla sur la montagne bleue, comme un œil d'or qui s'ouvrirait tout à coup au front d'un géant, toute la campagne sembla tressaillir sous les embrassements du ciel. Une harmonie formée de toutes les voix des arbres, des fleuves, des cascades, des oiseaux, des torrents, des fleurs, des vallées, des collines, éclata partout comme l'hymne premier chanté à l'aurore de la création. Nos deux voyageurs oublièrent longtemps la fatigue et la faim devant ce spectacle merveilleux. Mais ils rentrèrent bientôt dans les réalités de la vie, en s'apercevant avec effroi que cette nature si belle était remplie d'embûches et que son éclat ne donnait que l'aveuglement. Rien dans tout ce qu'ils voyaient ne rappelait un seul des sites parcourus la veille avec la caravane des chasseurs. Ils marchaient sur une terre inconnue, et leurs yeux, qui interrogeaient des horizons infinis, ne rencontraient aucun arbre isolé, aucun accident de terrain, aucune forme saisissante de colline déjà saluée par eux en sortant de l'habitation de Tinnevelly. Décidément, ils avaient été séparés par une chaîne de montagnes de la côte de Madras, et leur course haletante et aveugle de la nuit les avait entraînés sous un autre ciel et vers les rivages d'une autre mer. Le pays qu'ils traversaient les épouvantait par moments à cause de sa beauté singulière. Rien, du premier coup d'œil, n'annonçait le désert. Ce n'était pas la plaine du Nil ou la forêt vierge d'Amérique ou quelque autre de ces paysages qui se couvrent des horreurs de la solitude et avertissent le voyageur de ne pas s'aventurer dans ces domaines de la désolation. Sur cette partie de l'Inde, la terre semble cultivée avec soin, arrosée avec amour. On s'attend à chaque pas à voir arriver les laboureurs et les bûcherons, et à surprendre, derrière les massifs d'arbres, un clocher de village ou une vaste métairie animée par une famille joyeuse de fermiers. L'effroi vous saisit enfin lorsque vous avez reconnu que toute cette richesse n'appartient à personne, que ces arbres se découpent gracieusement, ces collines s'arrondissent, ces petits fleuves coulent avec amour, ces prairies se couvrent de fleurs pour les tigres, les hyènes, les lions et les éléphants, seul maître souverain de cette région splendide, fille aînée de la mer et du soleil. Les fruits sauvages qui pendaient aux arbres dans ce grand verger de la nature ne donnaient qu'un soulagement passager à la faim de nos deux voyageurs. L'horizon se déroulait toujours devant eux dans la même uniformité d'étendue infinie. 6 heures de course ardente ne rapprochaient pas d'une coudée. Toujours des montagnes après les collines, des plaines après les montagnes, des forêts après les plaines, des prairies après les forêts, des rochelus après les prairies, toujours une campagne inépuisable, écartelée de verdure et d'aridité puissante toutes deux. Après un silence fort long, qui ressemblait à la sombre méditation du désespoir, Clerps, qui marchait le premier, s'arrêta et dit à son compagnon « Mais je vais vous effrayer en vous annonçant qu'il est 3 heures. Encore 4 heures et nous voilà retombés dans les ténèbres de la nuit et les gueules de tigres. » Gabriel croisa les bras et secoua la tête mélancoliquement, les yeux fixés sur le soleil qui descendait du zénith avec une rapidité désespérante. « Ah !» dit Gabriel, « je me la rappellerai, cette chasse aux tigres. » « Parbleu, mon cher ami, je voudrais bien être dans le cas de me la rappeler, mais il faut commencer par arriver à quelque gîte où il nous soit permis de nous rappeler quelque chose. Quant à moi, je suis au bout de ma science topographique et je n'ai plus le courage de faire un pas. Voyons, il faut prendre un parti. Nous sommes brisés, nous nageons dans nos sueurs, nos vestes blanches et nos pantalons éclatent en lambeaux. Nous en avons laissé des échantillons à tous les buissons de l'Asie. Nous ressemblons à des parias et nous risquons d'être traités comme tels par le premier Indien de bonne maison que l'on rencontrera. Ce serait une insigne folie de continuer notre route dans un pays où il n'y a pas de route. Arrêtons-nous ici. Passons à l'état de naufragé. Bâtissons une cabane, fondons une colonie. Le pays est beau et fertile. Nous avons des arbres et des munitions. Voilà un délicieux verger de cocotiers et d'arbres à pin. Voilà de l'eau claire comme le cristal. Romulus n'en avait pas autant. Et il a réussi, c'est incontestable. Il n'y a pas au monde une plus belle végétation, un plus beau soleil. Ici, on rit de pitié quand on songe qu'à 4 pieds carrés dans l'Ouest Kent se vendent 100 livres. Dieu nous vend l'Asie pour rien, quelle admirable spéculation de terrain. Oh, je l'achète à ce prix et je partage avec vous. Sir Edward, parlez-vous sérieusement? Oh oui, très sérieusement, d'autant plus que je crois que cette nuit, à notre départ du théâtre des Tigres, nous avons tourné le dos à la véritable route de Tinnevelly et que nous nous écartons ainsi depuis 20 heures du point où nous voulons nous rendre. Serait-ce possible, Clarebs? Oh, je suis sûr de mon fait maintenant. Nous sommes à 30 lieues au moins du lac de Timorly. Ainsi, il n'y a pas à balancer. Bâtissons sur ce terrain 2 tentes, une pour vous, une pour moi, et commençons par dormir. Je suis accablé de sommeil. C'est le cas cette nuit de mettre en action le Midsummer Night's Dream de Shakespeare. Nous ne manquerons pas de personnages pour le rôle du lion. Hélas, mon ami Claps, il faut donc renoncer à voir cette étoile du Tinnevelly, cette reine des roses du Bengale, cette divine Heva. Mon ami Gabriel, quand nous sommes un peuple puissant, nous enlèverons les Sabines. Pour le moment, songeons à nous établir en garçons. Et Claps, sans perdre de temps, coupa de longues branches d'érable, les dépouilla de leurs feuilles, en fit des pieux solides et les enfonça dans la terre, selon le procédé de Robinson. Gabriel, voyant que son compagnon prenait son projet au sérieux, vint à son aide et posa des pieux. « très bien, Gabriel, avant le coucher du soleil, nous aurons une maison. »« Mais vous soupirez, Gabriel, voyons, quelle noire idée vous traverse l'esprit ?»« Ah, mon ami, je soupire en songeant qu'en ce moment, il y a de remortels qui passent sur les trottoirs du boulevard italien à Paris et qui prennent des sorbets chez Tortoni, qui lisent des affiches au coin des rues, qui dînent aux rochers de Cancale. Et nous, Gabriel, oh, je ne prendrai pas leur place pour leur céder la mienne. Les villes m'ennuient à la mort, et puis il est si doux de fonder une ville. » Gabriel poussa un éclat de rire qui, pour la première fois depuis Adam, fit rire les échos de la J majeure. Les deux voyageurs laissèrent tomber les pieux de leurs mains et rirent avec les échos. Cet accès de gaieté folle se fut prolongé indéfiniment entre les hommes et la nature. Si les oreilles des deux amis n'eussent été frappées au même instant par les sons clairs et distincts d'un instrument qui ressemblait à une mandoline. Clerps et Dagbriel saisirent leurs carabines et gardèrent une immobilité de statue. Les sons se rapprochaient et ils paraissaient se mêler à un chant mélancolique et nasillard. Bientôt, à quelques pas, se montrèrent 2 Indiens vêtus d'une longue tunique blanche et portant devant eux en sautoir une espèce de mandoline en manche démesurée. C'étaient 2 chanteurs ambulants appelés dans l'Inde Sarada Karen. Les chanteurs ne firent paraître aucune émotion en apercevant les jeunes gens. Ils s'avancèrent et leur tendirent la main pour leur demander une aumône. « Mais pour le coup, nous sommes sauvés !» s'écria Gabriel rayonnant de joie. « Ces gens-là connaissent le pays ?» Et il leur donna une piastre. Les chanteurs, pour reconnaître une si noble largesse, commencèrent une complainte sur l'abatteur de Rama et de Ravana. Au second couplet, Clarps les arrêta par un geste brusque de la main et leur dit, en anglais, de lui montrer la route jusqu'à la prochaine habitation. Les Indiens ne le comprirent pas. « Savez-vous un peu d'Hindoustani ?» dit Clarps à Gabriel. « J'ai remporté 3 prix d'Hindoustani au Collège de France. J'ai traduit la Navalapiram, mais dans l'Inde... on ne me comprend pas. » Et moi, s'écria Clerps en se frottant le front, j'ai traduit à Cambridge le grand poète Hazedim el-Mokadesi. Et si un Indien ne me parle pas anglais, je ne le comprends pas. Oh, si jamais je rentre à Cambridge, je destitue mon professeur. Heureusement, je parle la langue universelle. Ils me comprendront, ceux-là. Clerps plaça les 2 chanteurs côte à côte, prit le bras de Gabriel et, se plaçant derrière les Indiens, il leur fit signe de marcher vite en leur montrant le soleil à l'horizon du couchant, et contrefaisant le cri du lion. Les Indiens sourirent et se mirent en marche. Cléops et Gabriel allongèrent joyeusement le pas, et l'Anglais, se retournant vers ses pieux délaissés, les salua de la main en disant « Il est bien pénible d'abandonner ainsi une ville au berceau. » Les deux Sarada Karen marchaient sans hésitation et de ce pas résolu qui annonce la connaissance exacte du terrain. Parfois, ils se retournaient pour donner un sourire de consolation aux voyageurs qu'ils remorquaient à travers plaines et collines. Cléops répétait à chaque instant, sous diverses formes, un anathème contre le professeur d'Hindoustanie de l'université de Cambridge. Gabriel était absorbé dans une seule pensée. Il disait par intervalle ce monologue « Oh, je parierais volontiers que nous sommes à 40 lieues de la maison d'Eva !» Le soleil avait disparu derrière une longue crête de montagne que les voyageurs côtoyaient dans le vallon et qui leur dérobait totalement la campagne et l'horizon de midi. Quelques signes de culture commençaient à se révéler çà et là, et l'on voyait comme de légères aigrettes de fumée se détacher de la cime lointaine des arbres. Bientôt, Cléops et Gabriel virent avec joie un sentier tracé par des pieds humains, et des laboureurs nommés dans l'Inde Tottakarer descendirent d'une côte sur ce sentier, portant leurs instruments de travail sur leurs épaules. Gabriel n'aurait pas été plus transporté de bonheur s'il eût vu la divine Eva passer avec grâce de créole et son chapeau de crêpe chinois. « Je conçois, disait Cléops, qu'il y a des moments où je pourrais embrasser un laboureur indien. » Enfin, le bras d'un Sarada Karen s'allongea vers un massif d'arbres et nos voyageurs saluèrent une maison de Brahman peinte en rouge par ligne verticale. La nuit tombait. Aux dernières lueurs du crépuscule, ils reconnurent que cette maison devait être habitée par un brahman des premières castes. Elle n'avait point de fenêtre. Une toiture de joncs et de feuilles sèches de palmiers la défendait contre la pluie et le beau temps, et un enclos de maçonnerie contre les bêtes fauves. Devant la porte s'élevait une sorte de treille nommée pandel, couverte de paille et de branches vertes. Un peu plus loin dormait un petit étang destiné aux ablutions de famille. À l'angle méridional de la maison, un grossier piédestal supportait la statue informe de Ganesha, dieu pénate du foyer domestique indien. Le brahman Sialli habitait cette maison. Il reçut avec une affabilité grave nos deux jeunes voyageurs, elle les conduisit d'abord devant l'image de Ganesha, qui fut honorée des profondes révérences de Cléops. Gabriel ne se prosterna pas. Sialli les introduisit ensuite dans la salle de réception et leur offrit du lait caillé, nommé Dui, deux flacons de jus de palmier et de la liqueur fermentée, nommée Soura. Cléops et Gabriel s'assirent à l'indienne sur la natte fraîche et ils prirent leur repas frugal. Le brahman parlait assez bien le français et l'anglais, mais il eut la politesse de n'adresser aucune question aux deux étrangers. Il se contenta d'échanger avec eux quelques paroles sur des sujets indifférents. De leur côté, Cléops et Gabriel n'osèrent faire aucune interrogation. Après le souper, la conversation prit une tournure intéressante. Le brahman Sialli était fort instruit et surtout, il était doué d'un orgueil national digne d'un Anglais. Il ne laissa pas échapper l'occasion de placer l'Inde au-dessus de tous les pays du globe. Il se moqua d'Homère, qui avait inventé une mythologie dépourvue d'imagination, et touchant par tous ses points à la réalité. Il attaqua l'architecture religieuse grecque, qui rasait la terre avec le chapiteau de ses colonnes, et s'était copiée elle-même à l'infini. Alors il cita les 1000 poèmes de la mythologie de l'Hindoustan, dont les titres seuls sont plus longs que les œuvres d'Homère. Puis il déroula l'éternel chapitre des métamorphoses de Brahma, et il s'apprêtait à décrire l'architecture idéale et merveilleuse des temples souterrains d'Elephanta et d'Elora, cette architecture de rêves et de visions sublimes, lorsqu'il s'aperçut que ses deux auditeurs, vaincus par le sommeil, dormaient profondément. Le brahmane n'avait pas souvent l'occasion, dans sa solitude, d'exercer son érudition religieuse, et il s'était jeté avidement sur ces deux voyageurs comme sur une proie de controverse que la Providence lui envoyait. Le devoir de l'hospitalité lui prescrivit pourtant de respecter leur repos. Mais il n'en fut pas moins piqué de deux choses. Du sacrilège commis par Gabriel, qui ne s'était pas incliné devant sa statue domestique, et de l'irrévérence avec laquelle les voyageurs avaient accueilli son discours sur les incarnations. Le soleil était levé depuis assez longtemps, lorsque Gabriel et Claps se réveillèrent après un sommeil réparateur. Comme ils rajustaient les délabrements de leur toilette, ils entendirent des voix qui chuchotaient au dehors, mêlées à des piétinements de chevaux. Ils se rapprochèrent de la persienne qui voilait la porte et furent saisis d'un étrange étonnement lorsque la conversation suivante arriva à leurs oreilles. Une voix forte disait en anglais « Ce sont deux chanteurs ambulants que nous avons interrogés ce matin à l'habitation de Moulousami et qui nous l'ont dit. » « Ils ne vous ont pas trompé, » répondait le brahmane. « Je leur ai donné l'hospitalité hier au soir. Je vous ordonne donc de les livrer au nom du King's Proctor de Madras, » disait l'autre voix. « Je ne refuse pas de vous les livrer, » disait le brahmane. « Mais ils dorment encore et la loi d'hospitalité me défend de troubler leur sommeil. Ces deux jeunes gens ne m'inspirent aucun intérêt. Ils sont couverts de haillons comme des ravageurs de jardin. » Ils sont leurs chaussures en lambeaux et tout en eux annoncent qu'ils ont fait un mauvais coup. De plus, je suis convaincu qu'une religion. Oh, pour le coup, ceci est trop fort, s'écria Gabriel dans la maison. Et soulevant la persienne, il s'élança sous le pendel suivi de Klebs. Les deux amis trouvèrent là 6 cavaliers, 6 pailles et un officier anglais. Je vous arrête au nom de la loi, dit l'officier. « Nous !» s'écrièrent à la fois Klerps et Gabriel. « Et qui donc ?» dit l'officier. « N'êtes-vous pas les nommés Klerps et Gabriel de Nancy, sans profession ?»« Oui, mais pourquoi nous arrêtez-vous »« Voici l'ordre d'arrêt du King's Proctor. »« Mais de quoi sommes-nous accusés ?» dit Gabriel. « Vous le serez à Madras. » « Voilà qui est singulier, » dit Klaps. « Eh bien, nous vous suivrons, capitaine, allons à Madras. » L'officier fit un signe. On amena 2 vieux chevaux pour Klaps et Gabriel. Les prisonniers furent placés au centre de l'escouade et l'on partit. Tout ce monde suivit un sentier escarpé qui coupait la crête de la montagne auprès de laquelle était située la maison du brahmane. Et lorsqu'on fut parvenu au sommet, Klerps et Gabriel découvrirent à gauche, dans la plaine, le lac de Tinevely. Une exclamation de surprise échappa simultanément aux deux prisonniers. « Un seul mot, capitaine, » dit Klerps. « Est-ce que nous ne nous arrêterons pas à cette habitation là-bas ?»« Vous vous arrêterez à Madras, » dit l'officier, « et pour longtemps. » « Ceci est plus fabuleux que les 10 incarnations de Brahma, » dit Gabriel. Chapitre 4 À Madras. Après une longue route dans la campagne, Kleips et Gabriel arrivèrent à Madras et furent enfermés dans la prison du Fort Saint-Georges. La justice est toujours plus expéditive dans les colonies que dans les métropoles. Les deux prisonniers ne tardèrent pas à paraître devant leur juge. Ils s'étaient épuisés en conjectures sur la cause de leur arrestation. Clerp se répétait toujours qu'on les accusait sans doute d'avoir essayé de fonder une ville au désert, crime prévu peut-être dans un code indien à eux inconnu. Et ce sont les deux chanteurs qui nous ont dénoncés, disait Gabriel. Je comprendrais parfaitement cette accusation, disait Clerps, si Madras était encore administrée par le code hindou comme la vieille Chinnapatnam. Mais depuis l'avènement de Lord Cornwallis à l'administration suprême du pays, nous n'avons à rendre compte de nos actions qu'à des juges anglais. Et des juges anglais, ajoutait Gabriel, ont trop de bon sens pour nous condamner, parce que nous avons coupé dans l'East India 4 pieds d'érable pour passer la nuit. Oh, ce serait probablement un exemple qu'il faudrait donner au naturel du pays, remarquait Clerps avec beaucoup de sagacité. Préparons notre plaidoyer en conséquence, disait Gabriel. Comme ils s'entretenaient ainsi, la tornée générale entra dans leur cachot, suivie d'un secrétaire. Le magistrat s'assit et, s'adressant aux deux prisonniers, il leur dit: Clerps et Gabriel de Nancy, vous êtes accusés d'assassinat sur la personne de l'Indien Moulusami, sujet de la Grande-Bretagne. Avez-vous quelque chose à répondre à cela? Les deux amis poussèrent un cri en élevant leurs mains au-dessus de leur tête. Mais qu'avez-vous à répondre à cela? Répéta la tornée générale. Ben, tout et rien, dit Clerps, à votre choix. Il y a contre vous des témoignages accablants, dit le magistrat. Oh, c'est une horrible dérision, s'écria Gabriel. Prenez garde, jeune homme, dit l'homme de loi. Vous prenez de l'irritation, vous vous emportez, donc. Oui, interrompit vivement Gabriel. Les innocents qu'on accuse sont toujours dans une position étrange. Prennent-ils la chose froidement comme Clubs? On dit: Oh, s'ils étaient vraiment innocents, quel cri de vérité sortirait de leur poitrine? Se livrent-ils à un juste mouvement d'indignation et de colère, comme moi? Et on dit: Oh, l'innocence est calme et sa parole tranquille, car elle n'a rien à redouter. Si je suis coupable parce que je m'indigne, Clubs est innocent parce qu'il ne s'indigne pas. Vous vous êtes distribué vos rôles, dit le magistrat, mais l'exercice de la justice ne s'y méprendra pas. Faites des aveux et peut-être la clémence. Mais nous ne voulons point de clémence, nous voulons la justice, dit Gabriel, s'il y en a à Madras. La justice, dit le magistrat, est sur tous les points du globe où flotte cette devise, Dieu est mon droit. Et il se leva, lançant un regard sévère sur les deux prisonniers. Dès ce moment, Krebs et Gabriel furent séparés. Toute communication entre eux leur fut interdite jusqu'au jour des débats. La vieille ville, la ville noire, la ville européenne, la ville chinoise, toutes ces villes qui forment Madras, s'étaient beaucoup émues à l'annonce de ce procès. Les Indiens riches et les pauvres attendaient avec anxiété son issue pour juger la justice des Anglais, leurs maîtres, et pour savoir s'ils auraient la sage impartialité de sacrifier un homme de leur nation, un homme souillé du sang d'un Indien. À l'aurore du jour des débats, toutes les avenues du palais où s'installa le tribunal étaient inondées d'un peuple de toutes couleurs, mosaïque humaine, qui ne pavent que les rues de Madras. Les juges étaient au nombre de cinq, présidés par le criminal judge. La tornelle générale était à son banc. On amena les prisonniers. Ils portaient le costume dévasté de leur malheureuse chasse, Cependant, les dames de la haute société blanche et cuivrée de Madras trouvèrent que ces jeunes gens étaient fort bien et qu'ils ne ressemblaient nullement à des assassins. Après avoir interrogé les prévenus sur leur âge, leur profession, leur pays, leur domicile, le juge criminel fit appeler les témoins. 14 témoins déposèrent comme un seul Mirpour et Goulab et les 12 péons de Mounousasmi. Ils affirmèrent tous que Gabriel et Krebs avaient assassiné leur maître et leur ami entre les rives de Loutchmi et les gorges de Ravana, et que pour se dérober à leur poursuite, ils s'étaient jetés à la nage et perdus dans la vallée de Loutchmi, où les arbres sont aussi touffus et serrés que des épis dans les rizières. Après eux vint déposer le brahman Siali. Il dit que Gabriel et Clems étaient arrivés dans sa maison le soir du lendemain de l'assassinat, que leurs physionomies étaient sinistres, leurs mains ensanglantées, leurs habits en lambeaux, comme ceux d'assassins qui auraient lutté longtemps avec leurs victimes. Et il versa des larmes sur la mort de Mounousami, qui était, disait-il, son ami et son voisin derrière la montagne. Enfin, les deux Sarada Karen déposèrent aussi. Ils dirent qu'ils avaient vu les deux prévenus occupés à tailler des pieux dans le désert pour construire une cabane et que l'un d'eux leur avait donné une piastre pour acheter leur discrétion. Alors, l'attorney général se leva et parla ainsi. S'il est un crime évident, palpable, clair comme le soleil qui nous éclaire, c'est celui qui est soumis à ce tribunal. Vous avez entendu les foudroyantes dispositions des témoins, qui sont tous dignes de foi, plutôt à cause de leur caractère plein de candeur et d'ingénuité qu'à cause de leur position sociale. Mais, comme dit Blackstone, regardez le visage du témoin et non son habit. Je vois d'un côté 12 péons, honnêtes et laborieux, serviteurs, qui certes ne se sont pas accordés pour déposer unanimement contre les prévenus, et qui, tout en pleurant la mort de leur maître, ne voudraient pas la venger par la mort de deux innocents, à eux inconnus. Je vois ensuite deux riches négociants, fils de ces heureux climats, deux Indiens qui se sont retirés des affaires commerciales pour prendre un peu de ces doux loisirs que le poète de Mantoue a célébrés dans des vers harmonieux. Goulab et Mirpour ont perdu un ami, un véritable ami, et la perte d'un ami est irréparable. C'est un trésor qu'on ne trouve qu'une fois. Parlerai-je des deux chanteurs ambulants dont la déposition insignifiante au premier abord, n'en est pas moins accablante lorsqu'on l'examine de près. Que vous ont dit ces naïfs enfants de la nature? Ils ont vu Krebs et Gabriel perdus dans les solitudes, où le remords et la crainte du châtiment les retenaient, se construisant à la hâte une informe cabane pour y ensevelir désormais une vie qui n'appartient plus qu'à la main de l'exécuteur. Ces deux hommes, élevés dans la mollesse et les plaisirs, séparés violemment de la société par la barrière du crime, s'étaient déjà condamnés eux-mêmes à subir un exil perpétuel au milieu des bêtes fauves, dignes et mules de leur forfait. Et maintenant, me sera-t-il permis de dire toute ma pensée? Oui, et aucune considération humaine ne saura m'écarter de la ligne de mon devoir. Je dirai tout, je ne cacherai rien. Une chose sans doute vous a frappé, honorable juge. Vous vous êtes demandé quel intérêt si grand a pu porter ces deux prévenus à commettre un crime atroce. Car, selon la morale du savant légiste Mackerson, tout crime suppose un intérêt. Axiome qui n'est que le corollaire d'un autre plus connu, is fecit qui prodest. Ici, l'intérêt qui a porté deux hommes au crime, ce n'est ni la vengeance ni la soif d'un vil métal. C'est une passion adultère, ou pour mieux dire, c'est l'association de deux amours infâmes. On a tué le mari pour... Je m'arrête, honorable juge. Je craindrais moi-même de souiller l'air pur de cette cent sainte si j'achevais une parole que mon silence exprime bien mieux. C'est pour arriver à ce but odieux que Gabriel et Krebs se construisaient un repère dans les bois à 10 milles du parc de Tédelville, afin d'y cacher l'innocente victime de leur infernale passion. Insensé! Vous espériez donc que rien dans cet asile solitaire ne troublerait vos nuits et vos jours? Ah, tous les torrents qui viennent de la montagne bleue ne peuvent laver une goutte de sang. Toutes les fleurs de ces sauvages jardins de l'Inde n'auraient pu donner un adoucissement à vos remords. Vous vous seriez écrié sans cesse comme Lady Macbeth. Il y a toujours là une odeur de sang. Tous les parfums de l'Arabie n'embaumeront jamais cette main. Here's the smell of the blood still, or the perfumes of Arabia will not sweeten this hand. D'autres témoins appartenant à diverses nations européennes n'ont assisté que de loin à l'assassinat du malheureux Nabab. Nous ne les avons pas rappelés dans cette enceinte. Ils disent qu'ils n'ont rien vu et qu'ils ne peuvent rien affirmer, ni en faveur ni contre les prévenus. Eh bien, j'affirme, moi, que le silence de ces Européens, unis par de longues relations avec les prévenus, est plus accablant que le témoignage de 15 Indiens. Silent, clamante, ils se taisent, ils crient, comme dit Cicéron dans sa première Catilinaire. Silent, clamante. Je ne puis passer sous silence une autre déposition terrible, quoiqu'elle soit exprimée dans un langage concis, aimé des lettrés de l'Hindoustan. Le savant et sage Brahman Siali vous a dépeint en termes frappants la dégradation physique et morale dans laquelle étaient tombés les prévenus lorsqu'ils vinrent dans les ténèbres lui demander l'hospitalité. Quoi, ces hommes qui connaissaient parfaitement les lieux ont évité l'habitation du lac? Quoi, ils ont mis une haute montagne entre la maison de Mumusami et la maison du Brahman? Et s'ils étaient innocents, pourquoi ne se sont-ils pas présentés la veille, comme les autres, chez la veuve de l'Indien? Mais ils ont erré à travers les plaines pour éviter les visages accusateurs. Et si la justice ne fut pas tombée à l'improviste sur les coupables, ils auraient gagné Pondichéry. Ils auraient traversé les mers pour ensevelir leur forfait et leur nom dans quelque asile lointain où le glaive de notre loi n'a pas d'action sur les criminels. Le crime est donc prouvé jusqu'à l'évidence. Il faut montrer à nos compatriotes, les Indiens, que la justice est égale pour tous. Nous sommes heureux de reconnaître qu'en cette occasion, la justice est d'accord avec une sage politique. Je vous livre donc sans crainte, honorable juge, ces deux hommes. Votre sentence peut être douteuse. Et toi, infortuné Indien, toi qui as trouvé dans les déserts des chrétiens plus féroces que les monstres de l'Asie, que tes mânes s'apaisent, ton sang répandu sera vengé. Ce plaidoyer était un mélange de mauvais goût, d'emphase, de rhétorique banale et de très heureux. Mais il produisit une vive impression sur le tribunal et sur l'auditoire. Les deux prévenus gardèrent une attitude de dignité qui fut généralement regardée comme l'expression de l'impudence et de l'endurcissement du cœur. Le juge criminel, dont la conviction était déjà faite, prit un visage bénin et dit au prévenu « Avant d'accorder la parole à votre défenseur, je veux vous demander si vous n'avez rien à dire dans l'intérêt de la cause. »« Rien, » murmura Gabriel. Krebs croisa les bras, jeta nonchalamment sa tête en arrière et dit « Pour la rareté du fait, je voudrais me voir pendre demain matin. » Et le jeune Anglais fit un de ces sourires auxquels les yeux ne donnent pas un rayon, un sourire de fou. Le président, après une légère pause, reprit « La parole est au défenseur des accusés. » L'avocat se leva en secouant les immenses flocons de sa perruque d'emprunt, étendit verticalement son bras vers le plafond pour amener au coude les plis de la manche de sa robe et dit « Honorable juge de la cour criminelle, la cause... » Gabriel se leva vivement sur son banc et, imposant silence à l'avocat, il s'écria « Nous ne voulons pas être défendus. Une défense est une insulte pour nous. Assez, monsieur !» Klerps approuva tranquillement par un signe de tête ces paroles de son ami. Le juge criminel prit un ton solennel et, s'adressant à l'avocat qui déjà s'asseyait, il dit « On l'obéit ici au tribunal. Défendez les accusés, monsieur !» L'avocat se leva de nouveau et commença ainsi.
« Messieurs, je ne me dissimule pas la pénible tâche que la cour m'a confiée. Je prends la parole après un magistrat dont la voix éloquente a ému nos âmes, mais je puiserai dans mon cœur la force nécessaire pour remplir dignement mon devoir d'humanité. Vous voyez devant vous, honorable juge, deux jeunes gens qui appartiennent aux classes élevées de la société, deux voyageurs avides de science et qui viennent chercher à la sueur de leur front et au péril de leur vie un peu de cette gloire que recueillaient les Colomb et les Vasco de Gama. L'étude est leur seule passion, la gloire leur seule récompense. L'un est envoyé par la Société royale de Londres pour découvrir l'histoire des Malabar, écrite avant Aurangzeb, ce tyran qui fit décapiter son frère. L'autre remplit une mission non moins importante. Il voyage dans l'Inde pour compléter la collection ornithologique du musée de Paris, ce pandémonium de tous les êtres de la création. Je demande à la cour qu'il me soit permis de lire la moitié d'une lettre que M. de Lacépède... Avocat, les lettres de M. de Lacépède ne sont pas en cause, venez au fait. Honorable juge, poursuivit l'avocat, le respectable attorney général est tombé dans une grave contradiction. Il a dit dans un passage de son éloquent discours que les deux prévenus avaient voulu construire dans le désert avec une intention criminelle, et il a établi sur cette conjecture la base fondamentale de l'accusation. Eh bien, honorable juge, le respectable attorney a dit en finissant que l'intention de Krebs et de Gabriel était de fuir le désert pour s'embarquer à Pondichéry. Je vous le demande, honorable juge, comment concilier ces deux choses? Quoi? Gabriel et Krebs veulent fonder un établissement dans le Tinnevelly et ils courent chercher un vaisseau sur la côte de Coromandel. Au nom de Dieu, que l'accusation soit possible! L'affaire est grave, très grave. Il s'agit de la vie de deux innocents. Murmure dans l'auditoire. Le président d'une voix perçante. « Au moindre signe d'approbation ou d'approbation, je fais évacuer la salle. » L'avocat, élevant la voix au diapason de la menace du président. « Oh non, 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 vous ne les condamnerez pas, parce que la science réclame leur service et que l'Europe a les yeux sur eux. Vous ne les condamnerez pas parce que les témoignages qui se sont élevés contre mes clients sont vagues et semblent tous dictés comme une leçon d'écolier à des... » Latonnet se releva furieux et s'écria « Les témoins sont placés sous ma protection, ils ont parlé selon leur conscience, et je ne souffrirai pas qu'ils soient portés atteinte à leur honneur. Vous ne les condamnerez pas parce que vous n'avez entendu aucun témoignage à décharge. Produisez-en, produisez-en, reprit Latonnet. Que j'en produise, eh mon Dieu, envoyez une assignation au tigre des gorges de Havana. « Bravo !» s'écria Gabriel. Ben, « Il a fini par trouver cela, » dit Klerps. « C'est très, très beau. » Le président frappa sur la table et dit « La cause est suffisamment instruite. Les prévenus ont-ils quelque chose à ajouter à la défense de leurs avocats ?»« Oui, » dit Klerps. « Oh, une chose bien simple, une seule. Nous sommes innocents. »« Voilà tout ?» demanda le juge.
Oui, il me semble que c'est suffisant. La séance est suspendue, dit le juge. Clerc se pencha à l'oreille de Gabriel et lui dit « Oh, je suis bien tranquille. Je connais les juges anglais des colonies. Ils jouent très bien leur jeu. Ce procès qu'ils nous font est une concession aux naturels du pays. Voilà leur politique. Nous sommes absous. La législation qui régit la métropole ne s'introduit que fort tard dans les colonies. À cette époque, Madras ne connaissait pas le jury. Des magistrats spéciaux jugeaient les crimes et d'une façon fort expéditive toujours. La délibération ne dura pas un quart d'heure. Le président débita un long préambule qui n'était que la répétition du discours de la Tournai et à la fin il prononça une sentence de mort. Cléops et Gabriel s'inclinèrent comme pour remercier. Le président se leva et dit « Cléops et Gabriel, la loi vous donne 24 heures pour vous préparer à la mort. Qu'on amène les condamnés. » Quatre soldats s'y payent et escortèrent Cléops et Gabriel à la prison voisine. Un pasteur de la communion d'Augsbourg et un missionnaire de la propagande attendaient les deux condamnés sur le seuil de leur cachot. Ils y entrèrent avec eux. La ville indienne célébrait dans ce jour le Raus Jatre, la fête des amours de Krishna, bacchanal du Coromandel. Un heureux hasard faisait concourir la mort de deux chrétiens avec les réjouissances politiques. Aussi la foule épuisait ses démonstrations d'allégresse et dansait au son du bin et du sitar sur la place du gouvernement où les potences et le bourreau étaient attendus.